congrès national des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Eh oui, Cannabis Circus, comme tous les lundis soirs de 21h à 22h, c'est l'émission du Cirque et du collectif d'information et de recherche cannabique. Et...
sur Radio Canu.
Et on est sur Radio Canu, sur la voix de Mégaerts, c'est la plus rebelle des radios, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, comme tous les lundis soirs, on va vous parler de cannabis, d'herbes, de drogues légales, illégales et tout ça. Voilà, on va vous parler de...
de Mathieu Kassovitz.
De Mathieu Kassovitz, voilà. Oui, tout à fait. Vous parlez d'un procès avec 144 pieds, 1 kilo avec une relaxe à la clé. Un truc étonnant. Et on va vous expliquer comment et pourquoi.
C'est la bonne nouvelle de la journée. Enfin, on le sait depuis un petit moment. Mais bon.
Et on ira voir avec le monde les drogues en prison. Avec, en prison, les gens se droguent. Le tabac à 73%. Donc, quand même, les trois quarts de la population carcérale. Du cannabis, 26%. Et puis, plein d'autres petites drogues dont on verra. Y compris l'alcool, qui se trouve aussi dans les prisons et qui s'achète.
Et on le sait, c'est une recherche de l'OFDT qui a été faite.
Voilà, tout à fait. Après, on ira voir...
les affaires de corruption.
La montée alarmante du narcotrafic et de la corruption. Donc, on va en parler pas mal, puisqu'il y a un autre article du Monde avec... avec des faits dans le 9-3.
Des affaires de Ripou.
Tout à fait, voilà. Et puis on parlera un petit peu peut-être de La Bac Nord, un autre film.
Oui, que toi tu as vu,
ouais. Ouais, que j'ai vu.
Apparemment, ça te rappelait des.
Qui est tout à fait dans le même style, qui est sorti d'histoire vraie.
Alors là, dans l'article, il parle d'une série sur Netflix qui. Apparemment, ils ont eu aussi les bonnes infos pour faire la série comme.
Tout à fait, c'est bien.
Ouais, bon.
La réalité, de manière, est pire que la fiction souvent, mais voilà. Et puis, on finira par aller faire un petit tour dans des pays étrangers, comme en Tchéquie, où on légalise différents produits, comme le HHC, on reviendra là-dessus. Et puis en Thaïlande, où là, c'est du thérapeutique, mais pour le thérapeutique, ils vont légaliser l'opium ou des champignons hallucinogènes. Donc des choses un petit peu étonnantes, des expériences de par le monde qui méritent...
On s'y penche un peu dessus, oui.
Voilà, tout à fait. Et puis, donc, on va commencer par ce Mathieu Kassovitz.
Oui,
donc,
vous en avez parlé déjà.
Cette série qui était passée sur Arte.
Sur la 3.
C'était sur la 3 que c'était passé.
Oui, sur la 5, pardon. Sur la
5, j'ai dit Arte, oui, c'est sur la 5.
C'était le 2 avril dernier.
Tout à fait.
Voilà, et donc, Mathieu Kassovitz il va être invité par... Christophe Bex, qui est un député de la France Insoumise de Haute-Garonne et qui préside également un groupe d'études dédié au cannabis. Et donc, ce Christophe Bex, dont on a déjà parlé à cette antenne, a décidé d'inviter Kassovitz pour qu'il vienne débattre,
présenter son film
et débattre en fait à par la suite avec les députés que ça intéresserait, parce que vu l'ambiance actuelle dans le gouvernement, mais bon, il y a quand même des membres du gouvernement, enfin des membres de la majorité plutôt, qui en tout cas serait, enfin on le sait, qu'il y a des membres de la majorité qui sont plutôt pro-légalisation. Je pense à Caroline Janvier justement, mais il n'y a pas qu'elle.
Oui, on avait vu des maires aussi de petites villes, dont des maires de droite et des maires de gauche, bien sûr.
Donc voilà, certains députés de la majorité, c'est des députés, seraient malgré tout favorables à une évolution de la loi. Nous apprend-on dans cet article qui nous vient de RMC BFM, juste pour annoncer que justement Kassovitz va présenter son film. Voilà, c'est tout en fait. Rien de plus dans cet article qui ne prétend pas non plus être un article d'analyse. Mais voilà, on est. Je ne sais pas si on est content d'apprendre que si des députés veulent voir ce documentaire, eh bien ils pourront le voir à l'Assemblée et il pourra y avoir un débat par la suite. Voilà, pourquoi pas. Bon.
Voilà, et je me souviens d'une étude qui a été, dont j'ai reparlé plusieurs fois, qui est vieille, elle doit dater d'au moins une quinzaine d'années, qui avait été faite justement sur l'utilisation du cannabis par rapport aux couleurs politiques et au fait qu'on était militant ou pas. Et donc ce qui ressortait, c'est que, les militants fument plus que les autres. Je me souviens avoir tenu des bureaux de vote avec des gens d'autres bords qui fumaient aussi. Voilà, ça c'est déjà une chose. Et puis la deuxième chose, c'est que à gauche on fume plus qu'à droite, à l'extrême gauche plus qu'à gauche, plus que dans la gauche traditionnelle, et à l'extrême droite plus que dans la droite traditionnelle. Voilà. Et j'arrive plus à me souvenir si l'extrême droite fumait plus ou moins que la gauche traditionnelle. Voilà, mais c'est des petites nuances. Mais c'est quand même marrant de voir que, de toute manière, c'est quelque chose qui transcende la société. On l'a dit et redit que le profil du consommateur de cannabis est difficile à... Donc, il est plutôt masculin que féminin, mais
oui,
pas que.
Ça, oui. En France, en tout cas.
Les hommes fumeraient quand même souvent beaucoup plus que les femmes. Mais sinon, dans tous les âges, il y en a qui utilisent le cannabis. Dans toutes les professions, il y en a qui utilisent le cannabis. Dans tous les pays, dans toutes les sphères sociales et dans les hautes sphères, c'est plutôt plus que dans les basses sphères. Voilà, les chômeurs aussi fument plus. Voilà, c'est très bizarre, quoi. Il y a c'est très inégal. Voilà. Mais bon, c'est de toute manière les chômeurs ou toutes les personnes qui ont du temps ou qui sont malheureux consomment plus de produits que les autres. Ce qu'on va voir d'ailleurs avec l'article sur les prisons aussi.
Après, c'est des questions de quantité aussi.
C'est aussi voilà. Les quantités, la qualité, tout ça. Voilà, c'est d'autres, mais c'est des choses qui n'étaient pas du tout et qui sont très rarement prises en compte.
Ah oui,
dans dans les études. Et puis en plus, les gens qui ont toujours fumé toujours le même produit, même si c'est de la merde, ils savent pas que c'est de la merde. Voilà.
Bon, il y en a qui le savent quand même.
Oui. Mais voilà. C'est surtout les gros consommateurs qui savent quand c'est des bons ou des mauvais produits. Et surtout, quand on a l'occasion d'aller à l'étranger et de toucher des très très bons produits, on s'aperçoit, on voit plus facilement ce qu'est un mauvais produit.
Bien. Bien, bien, bien. Alors, continuons. On va parler un peu de cette affaire de cultivateur, personne qui cultivait 144 pieds et qui possédait 1 kilo. Alors, ça ressort là en ce moment, mais c'est un peu plus ancien. C'est une info qui date de courant avril ou même fin mars. Et qui a été reprise par notre ami Dominique, qui l'avait publié sur le site du Cirque. Je crois qu'on en a même déjà parlé à l'antenne, mais il n'y avait pas eu d'article, me semble-t-il. Donc voilà, en tout cas, c'est l'occasion d'en reparler. Et c'est quand même une décision, effectivement, qui est assez surprenante. En fait, il s'agit au départ d'une perquise suite à dénonciation. Ça a commencé comme ça, en fait.
Comme beaucoup.
Et alors ça se passe où déjà? À Sérigny. Et puis, l'individu qui avait ses 144 pieds s'est retrouvé avec le GRAD, le groupe antidrogue, à la porte, qui est venu le perquisitionner. Donc voilà, monsieur, il n'a pas de casier judiciaire.
Ouais, 144 pieds et 1 kilo quand même chez lui.
Ouais, c'est pas mal, ouais, en effet. Ouais, c'est même plutôt une quantité, je dirais, quasi importante quand même, parce que 144 pieds qui poussent. Et 1 kilo, c'est pas rien. Et donc voilà, il a été poursuivi. Il est poursuivi, en fait. Il s'est retrouvé devant un tribunal. Et il était défendu. Ça, le nom de l'avocat a son importance, c'est Maître Hachet, qu'on connaît un petit peu au Cirque. Et donc, Maître Hachet, en fait, il a tout simplement défendu son client. Et il l'a défendu sur la base... Alors, je vais peut-être un peu trop vite dans l'article. parce qu'en fait, il faut d'abord rappeler les faits.
Voilà, donc la personne a un casier vierge, hein, quand oui, même, il faut le noter
ça,
aussi.
Ça, on l'a dit.
Et donc, bah, les faits, voilà, ils ont chauffé pas mal. Mais voilà, mais il y a une petite faille. C'est l'inconventionnalité de la loi française.
Vas-y, explique.
Qui s'oppose à la Commission européenne des droits de l'homme.
Enfin, la Convention de la Cour européenne des droits de l'homme.
Oui. Voilà.
Alors, donc, c'est quoi le problème? En fait, c'est le problème, c'est que, bah, en France, quand on cultive du cannabis, on peut être puni par l'article L3421-1 du Code de la Santé publique. Il peut même y avoir jusqu'à. Ça peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Mais ça peut être une peine assez lourde, et on le sait, hein, depuis qu'il y a les amendes forfaitaires délictuelles, la justice peut aussi décider de vous infliger une amende forfaitaire délictuelle à la place donc de cette condamnation lourde d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Mais voilà, il se trouve que cette situation, c'est-à-dire soit l'un soit l'autre, un peu comme le veut le juge, hein, c'est pas nouveau cette faille, hein, d'ailleurs, hein, mais... eh bien, il se trouve que cette situation contrevient au principe de prévisibilité des peines qui est consacré par la Convention et la Cour européenne des droits de l'homme.
Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, là?
Bah, en fait, ça veut dire que quand tu commets un délit, tu dois être condamné à une peine qui est lisible.
Mm-hmm.
Et que tu. Enfin, dont le justiciable que le justiciable doit connaître, en fait. Alors que là, en fait, on ne sait pas.
Voilà, et c'est-à-dire que selon un juge, selon une différence de traitement entre deux prévenus dans des situations similaires, alors.
Mais qui peuvent être similaires, mais qui peuvent être interprétées différemment selon les parquets et les tribunaux.
Et donc il y a une discrimination.
Ah ben forcément, si l'un est condamné par comme ça à Juvisy et puis comme ça à Toulouse, ça va pas. Et on sait bien que c'est ce problème d'ailleurs. Hein. Ça fait longtemps déjà qu'il existe. C'est pas nouveau, mais là, bon, la Cour européenne, les conventions européennes ont évolué au niveau des droits humains, et forcément, là, la France est en défaut. C'est ça qui, c'est ce qui se passe. Alors, donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Au final, eh bien, la convocation en justice est annulée, mais le tribunal peut quand même demander au procureur de soumettre l'accusé à une amende forfaitaire, accompagnée d'une inscription au bulletin numéro 1 du casier judiciaire, qui contient toutes les condamnations, etc., y compris lorsqu'elles sont petites et même si la personne était mineure. Et l'accusé, donc, voilà, et ça, inscrit au casier, je vais y arriver, pour une durée de 3 ans. Et en ce qui concerne l'amende forfaitaire délictuelle, eh bien, Maître Hachet défendra son client devant la Cour européenne des droits de l'homme, comme il l'a déjà fait devant le Conseil d'État et la Cour de cassation, précédemment, afin qu'une amende ne puisse pas figurer, ne doive pas figurer dans le Code de la Santé publique. Parce qu'en fait, c'est ça, voilà, ils ont fait cette amende forfaitaire pour, en gros, décorrectionnaliser un certain nombre de petits faits liés au cannabis, de petits délits. Mais il se trouve qu'on peut quand même avoir une amende. Enfin, c'est inscrit. La loi, elle est dans le code de la santé publique. Alors, ça va pas, quoi. Donc, notamment dans les sections dédiées à la lutte contre les maladies et les dépendances, ce que Maître Hachet dit si bien, on ne combat pas une maladie en infligeant des amendes aux malades qui s'apparentent à un traitement inhumain et dégradant, contraire à l'article 3 de la CEDH. Donc en fait, en plaidant devant la Cour européenne des droits de l'homme, le fait qu'une amende peut être donnée à son client et que cette amende, finalement, elle trouve ses sources juridiques dans le Code de la santé publique, ben ça va pas. Alors espérons que la Cour européenne des droits de l'homme suive Maître Hachet là-dessus. Mais en tout cas, pour le moment, eh bien, cet individu, ce monsieur, voilà, a été relaxé. Enfin, il a été la convocation en justice a été annulée. Mais bon, il reste quand même poursuivi. Enfin, il va être poursuivi quand même. Et il y a cette amende forfaitaire délictuelle qui peut quand même aussi s'attaquer, quoi. Voilà. Donc, bah, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, si parmi vous, chers auditeurs qui nous écoutez et que vous avez des problèmes avec la justice pour une histoire de deux.
Chers auditeurs suffit. Hein.
Auditeurs, c'est les deux.
Ah, auditeur.
Oui,
d'accord.
Donc voilà, donc chers amis, chers auditeurs, chers camarades, voilà, sachez donc que si jamais vous avez des problèmes avec la justice, eh bien, en tout cas, informez votre avocat du fait que il y a une incompatibilité au niveau des lois par rapport à celles de l'Europe sur ces histoires-là, et que la France est hors la loi au niveau des lois et des conventions sur les droits humains. Voilà. Et éventuellement, contactez le cirque, vous avez un problème, peut-être qu'on peut vous aider, et notamment vous recommander auprès de Maître Hachet. Voilà, voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, ça. Heureusement que l'Europe a avancé au niveau des droits humains, quand même. C'est ce qui va nous sauver, je pense.
Peut-être.
Un peu de musique, allez.
Et voilà, on vient de s'écouter Hofking Space.
J'espère que vous êtes toujours là, que vous ne nous avez pas quitté précipitamment. voilà, des morceaux uniques dans Cannabis Circus que vous n'entendrez nulle part ailleurs. C'était pas le morceau qu'on pensait passer, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va maintenant s'intéresser à cette étude de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, donc c'est l'OFDTA maintenant, faut qu'on y pense, qui dévoile son étude sur la consommation de substances en détention, que ce soit des substances légales ou illégales, enfin après en prison au niveau des substances, à part le tabac, tout est illégal, même l'alcool. Oui, le tabac, on peut en acheter, on peut en cantiner en détention. Voilà. Après, il y a des produits qu'on peut obtenir gratuitement en se les faisant prescrire. Hein, si on va au service de santé de la maison d'arrêt dans laquelle on est incarcéré ou du centre de détention, bref. Voilà, là on va pas parler de cela. En tout cas, l'OFDT n'en parle pas. Très très, enfin, le suggère un tout petit peu, mais voilà. Donc, il parle plutôt d'alcool, de cannabis, de cocaïne, de MDMA, de crack. Voilà. Donc, les prisons françaises, loin d'être épargnées par la consommation et donc le trafic de drogue et autres produits interdits, elles ne sont pas pour autant des zones où l'on se drogue librement. Je suis moyennement d'accord avec cette affirmation. Voilà. Pourquoi ? Ben, dans le sens où en détention, entre 18h et 6h du matin, on peut quasiment faire tout ce qu'on veut dans sa cellule, quoi. Enfin, c'est une réalité. Et c'est beaucoup dans ces moments-là où on va plutôt consommer des produits, même si beaucoup de détenus en consomment à d'autres moments de la journée, et ça dépend aussi des maisons d'arrêt et de la politique, on va dire, disciplinaire dans le centre, puisqu'il y a des maisons d'arrêt ou des centres de détention où, bon, c'est un peu plus libéral là-dessus que dans d'autres. Voilà. Mais là, dans cette enquête de l'AFDT, on parle pas trop de ça, finalement. On parle surtout de ce qui est consommé, des types de produits. Alors, ils ont fait faire, ils ont procédé par interrogation dans le cadre d'un questionnaire auto-administré, un panel de 1094 hommes détenus. Pour les femmes, ça va arriver plus tard. Pour l'instant, c'est que pour les hommes. Un panel de 1094 détenus a été retenu pour réaliser la première étude qui s'appelle Enquête sur la santé et les substances en prison, baptisée Esprit, qui a été publiée le 6 mai dernier. C'est coordonné par Stanislas Spilka, responsable scientifique de l'étude à l'OFDT, et il travaille avec on trouvera son nom plus tard dans l'article, mais ils sont deux. Melchior, voilà, j'ai retrouvé son nom. Ah bah ça m'a échappé encore une fois. Bon, peu importe, on verra après. Ouais,
donc il voulait surtout objectiver le débat permanent là-dessus, puisque depuis les années 70, les débats tournaient beaucoup autour des usages à risque liés aux injections ou au virus du sida, mais aujourd'hui, et les données le prouvent, nous sommes dans un autre contexte. Donc voilà ce qu'ils ont trouvé, toutes les réponses.
Melchior Simioni, l'autre sociologue chargé d'études à l'OFDT, voilà.
Donc, 73% des détenus sont des fumeurs réguliers de tabac, soit 2,5 fois plus qu'en population générale. Malgré un prix...
Le prix du tabac est le même qu'à l'extérieur, en prison qu'à l'extérieur. Du coup, avec en moyenne 250 euros mensuels par détenu, c'est une moyenne, pour cantiner, plus d'une dizaine d'euros le paquet de tabac à rouler, bref, ça fait cher. Ça fait pas mal d'argent. Et d'ailleurs, il parle de consommation de drogue, mais de consommation de trafic de drogue à l'intérieur de la prison. Et il y a aussi du trafic de tabac en prison, ça existe aussi.
Donc la consommation de tabac est très importante en prison, ça c'est le premier point. Et d'ailleurs là je reconnais à l'OFDT une valeur, c'est que quand ils étudient les drogues, ils étudient les drogues légales et illégales.
En tout cas là, ils ont pu le faire.
La deuxième drogue la plus consommée est donc le cannabis avec 26%. Soit là aussi quasiment deux fois plus que dans la population classique.
Population générale, oui.
Population générale.
Alors c'est plutôt les moins de 35 ans qui consommeraient plus que leurs aînés, avec 35% de fumeurs quotidiens contre 15% de fumeurs quotidiens pour les plus de 35 ans. Et données symboliques, disent-ils, la consommation de cannabis en détention dépasse celle de l'alcool.
Au contraire de la hiérarchie relative à la population générale.
Oui. Voilà. Alors.
Donc avant, c'est plus dans pratique. Le temps, c'était beaucoup plus courant d'avoir de l'alcool en prison, mais bon, a priori, ça a baissé un peu. Alors, pour avoir de l'alcool, c'était grâce à la contrebande ou encore produit par la macération de fruits, d'alcool.
Et de sucre. Enfin, bon, un peu tout ça, oui. Dans des bassines, sous le lit. C'était comme ça que ça se faisait, oui.
Et où on essaye de faire un alambic avec les moyens du bord ou pas?
Ouais, c'était un peu ça, ouais. Bon, je suis pas sûr de la grande qualité du produit à la fin, mais bon.
Après, juste macérer comme ça, ça crée déjà un breuvage alcoolisé.
Oui, c'était des trucs, plus ou moins simples, mais peut-être qu'il y en a qui étaient un peu plus malins, un peu plus, techniquement dotés que d'autres, ou je sais pas, où ils avaient pu se procurer du matériel, bref. Mais bon, voilà, seuls 16% des détenus déclaraient avoir bu de l'alcool au moins une fois lors de leur détention, et 3,7% au cours du mois précédent l'enquête. C'est plutôt les moins de 35 ans qui sont les plus touchés aussi. Voilà, mais baisse importante de la consommation d'alcool,
Voilà, bon, c'est ce qui est un petit peu compréhensible, puisque passer de l'alcool est beaucoup plus compliqué, c'est plus lourd, ouais, c'est plus c'est encombrant,
plus facile,
c'est
pas plus difficile sécable, à planquer. Ouais. En tout cas, au parloir, c'est pas pratique.
Voilà, le shit ou l'herbe sont plus facilement livrables.
Bah oui, parce qu'on peut les diviser en petits paquets, en petits lots, et puis pour livrer, c'est plus simple.
On peut les obtenir lors
ouais,
des...
Bah, des projections ou par drone aussi, ils disent dans, voilà. dans l'article.
Ou encore, étonnamment, grâce à la complicité des surveillants.
Oui, ça peut être le cas aussi. Ouais. Enfin, surtout pour le... Oui, enfin, ça peut être le cas, oui. Puis pas que pour le cannabis, d'ailleurs. Voilà, il y a des détenus qui font passer de la viande, hein, par exemple, au parloir. Tout simplement, des steaks.
Mm-hmm.
Parce que ben, il y en a qui veulent bien manger. Enfin, on veut tous bien manger, et la nourriture des prisons n'est pas forcément terrible. Du coup, voilà, il y en a qui passent de la nourriture au parloir. C'est pas plus autorisé d'en passer au parloir que du hashish, quoi. Mais bon. Et donc, en tout cas, pour l'alcool, bah, c'est pas, on peut pas faire ça. On peut pas faire passer une bouteille. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué de faire passer une bouteille au niveau du parloir, même si ça reste possible, hein, je pense. C'est plus compliqué à se les faire livrer par projection, parce que ou alors il faut que ce soit une bouteille en plastoc, qu'on soit sûr que quand elle atterrisse, elle explose pas. Bref, c'est plein de complications. Voilà, pour le cannabis, c'est beaucoup plus simple. Alors, il y a beaucoup de saisies de drogue. Enfin, il y a des saisies de drogue aussi en détention.
Bah ouais, ils ont fait des cellules nettes quand même. Hein.
Ouais.
Après, les places nettes, les places nettes XXL.
Enfin, là, ils parlent, c'était en 2022. Hein. Donc, ouais, c'était avant. Bon,
je pense qu'ils ont essayé d'en faire d'autres, ça. C'était juste...
Enfin, en tout cas, voilà, 18 187 saisies. Et en tout cas, c'est quasiment que du cannabis, quoi. C'est au moins 95% du cannabis. Voilà, donc voilà. C'est à peu près, voilà.
Et le cannabis en détention se trouve de façon très facile ou plutôt facile?
Oui, oui, oui. Faut être clair, oui. Faut être lucide, hein. Il y en a partout. Et d'ailleurs, il y a des surveillants que ça choque pas du tout. Et à la limite, ça les arrange. Parce que bon, ils restent tranquilles, ils fument, ils sont un peu stone dans leur cellule, ils font pas de bruit, pas.
Ils emmerdent personne.
Ça les embête pas, en fait. Hein. Mais voilà, encore une fois, ça dépend vraiment des maisons d'arrêt, des centres de détention, etc. Hein. Ça dépend de la politique locale. Hein.
Alors, pourquoi consomment-ils ces jeunes, ces personnes surtout? Donc, 46%, c'est pour s'endormir. 54%, c'est pour chercher à se calmer. Et donc, c'est très rare, seulement 6%...
Admettre que c'est plutôt pour s'amuser, ouais.
Voilà. Ou pour s'évader artificiellement.
Bah, c'est l'interprétation des chercheurs, quoi, qui, pour eux, serait une utilisation palliative à l'enfermement. Et voilà, le temps d'un pilon ou d'un joint, enfin bref, on s'évade artificiellement, disent-ils.
Cette forme de consommation autothérapeutique rappelle le lien entre consommation et contexte carcéral où la vie quotidienne est particulièrement difficile.
Voilà, et là c'est, je trouve, la partie presque la plus intéressante de cet article, c'est que on nous parle des conditions de détention et des conditions d'incarcération, et c'est l'occasion aussi de rappeler que la France est un pays où on incarcère massivement, enfin je veux dire, c'est pas nouveau, hein. Mais il y a en France, au 1er avril, 77 450 personnes incarcérées, soit 4320 de plus que l'année précédente. C'est fou. Je pense à certains pays d'Europe qui détruisent des prisons.
Mmh.
Et nous, on n'a plus de place et il faudrait en construire d'autres. C'est une fuite en avant complètement folle. Donc une densité carcérale moyenne de 125,8%, c'est incroyable.
Donc il y a des records, le recours à de simples matelas posés au sol.
Ben oui, voilà, on n'a plus de place dans les lits, comment dire, à étage. Et du coup, quand il y a un nouvel arrivant et qu'il n'y a plus de place, on le met là où il y a encore un peu de place et où on peut mettre un matelas par terre. Voilà. Et ça concerne 3307 détenus, contre 2151 un an plus tôt. Donc voilà, promiscuité, il y a des maisons d'arrêt qui sont vieilles, qui sont infestées de cafards, de vermine, enfin c'est
voilà,
scandaleux.
D'ailleurs, la situation est si tendue que le Conseil de l'Europe a exprimé mi-mars sa préoccupation au sujet des prisons françaises. Voilà, donc c'est,
ouais,
c'est
ça serait bien qu'il s'y penche un peu plus. Hein. Voilà, c'est une affaire de droits humains, hein, comme on a vu tout à l'heure avec l'article à propos du cultivateur qui avait 144 pieds. Là, au moins la Commission européenne, enfin l'Europe, se penche dessus et dit attendez, vous avez des lois qui ne respectent pas les droits humains et en prison non plus, vous respectez pas les droits humains. Alors. On respecte pas les droits de l'homme au niveau de l'usage de drogue, et quand on met les gens en prison, et si en plus ils sont drogués et qu'on les met en prison, ils vont pouvoir se droguer en prison, en plus on respecte pas non plus les droits humains là-bas. C'est magnifique, voilà, c'est formidable. Ensuite, ouais, il parle des drogues un peu, enfin, dites dures entre guillemets.
Les autres produits, on dira au moins un moins courant, donc la cocaïne.
Ouais.
13% des hommes interrogés contre 5,6% dans la population générale. Et pour les autres drogues, c'est 6,2% pour les usagers de crack, 5,4% pour les usagers d'ecstasy, 5,1% pour l'héroïne. Voilà à peu près.
Et si on additionne toutes ces consommations de toutes ces drogues, en fait, ça dépasse le niveau de consommation d'alcool. Mmh. Voilà. Alors. Il y a aussi un problème de comment on les consomme, notamment pour l'héroïne pour l'héroïne essentiellement, mais ça peut être la cocaïne aussi si on veut se les injecter. Il y a aussi la problématique de l'usage des seringues. 3,5% des prisonniers ayant eu recours à l'injection d'une drogue ou d'un produit de substitution dans leur détention durant leur détention, 3,5%. Et donc question, la prison est-elle un environnement où les détenus commencent à consommer des substances illicites? Des substances illicites, ce serait que 4% des détenus qui auraient commencé à consommer durant leur détention. Donc c'est quand même
du cannabis, hein, c'était que pour le cannabis.
Pour le cannabis, oui. Donc bon.
Bon, de toute manière, il faut dire que quand on regarde les statistiques, vu que ça fait 50% de la population qui en a consommé, chez les jeunes qui en ont consommé, et ça, on voit ça depuis 10 voire 20 ans, on a plus de 50% de la population en France qui, pour moi, a déjà consommé une fois dans sa vie, quoi.
Oui, possible. C'est. Oui.
C'est quasiment statistique.
Alors, pour terminer, bon, ils nous disent que la consommation à l'intérieur de murs, c'est très souvent le prolongement d'un comportement addictif à l'extérieur. Et alors là, on est vraiment dans cette époque-là de l'addicto, de la sobriété. C'est qui donc il s'agit donc de mieux d'accompagner au mieux les détenus vers la sobriété. C'est un peu le nouveau paradigme. Avant, c'était l'abstinence. Maintenant, on parle de sobriété. Bon. Pour terminer, on nous dit que cette enquête n'est pas destinée à demeurer une photographie unique et que les travaux de l'OFDT sur les consommations en milieu carcéral sont amenés dans les prochains mois à être élargis, comme je vous disais tout à l'heure, à la population féminine ainsi qu'aux établissements d'outre-mer, je vais y arriver, et qu'elle devrait servir de base chiffrée au débat sur les politiques publiques. Si ça les intéresse de s'occuper de ce qui se passe en prison, parce que je crois que c'est pas trop le cas. Et donc c'est un outil statistique qui est amené à être répété sur le long terme avec une deuxième salve d'ores et déjà prévue pour 2025. Voilà, donc ils mettent en place un outil un peu statistique pour une mesure plus régulière. Voilà. Allez, encore un peu de musique.
Ouais, ou un petit article encore, non?
Ah, le petit article sur la montée alarmante du narcotrafic et de la corruption, introduire l'article suivant sur les fuites en Seine-Saint-Denis, si je comprends bien ta démarche.
Oui, mais là, on a parlé aussi déjà un tout petit peu de corruption, puisque on a vu qu'il y avait des fonctionnaires de la pénitentiaire qui passaient du cannabis ou autre.
Oui. Bon, donc, si tu veux, après,
aussi,
c'est
ça fait partie de la corruption, corruption latente dont on a déjà parlé plusieurs fois ces derniers temps.
Certes, mais bon, ça c'est un truc qui est courant.
Et donc là, c'est un article du CIRC qui est sorti de Mediapart un peu, c'est ça?
Qui reprend un peu. Un article de Mediapart qui fait un exposé de toutes ces affaires de corruption, de narcotrafic. Et donc voilà, c'est un article assez court en fait. Qui fustige un peu les autorités, comme d'habitude, mais bon, ça c'est normal, et on est là pour ça. qui maintiennent donc une politique prohibitionniste et qui produit toutes ces affaires de corruption, d'endiguement du narcotrafic qui n'arrive pas à être endigué, au contraire. Ça provoque des vulnérabilités institutionnelles, puisque cette corruption s'infiltre dans plein d'institutions et qui sape bien sûr leur intégrité et qui compromet le système judiciaire. Et donc c'est une réalité qui met en lumière la nécessité de réformes institutionnelles profondes. Je sais pas si tu veux dire quelque chose de plus, parce que bon, ça se répète beaucoup dans cet article, mais en gros, bon, ce qu'on dit, c'est qu'il faut sortir de la prohibition.
On voit que c'est une menace croissante qui émane des réseaux criminels, qui corrompent n'importe qui, voilà, des signes d'alerte de plus en plus importants, et surtout tous les avertissements des professionnels de terrain, les autorités politiques comme Gérard Darmanin et Éric Dupond-Moretti en minimisent l'ampleur. Pour eux, il y a très peu de corruption. C'est un petit peu les politiques qui se cachent les yeux, ou alors qui en profitent, va savoir. Parce qu'on a souvent vu que les gens qui sont le plus pour la prohibition sont ceux qui en profitent quand même.
Oui. Je ne sais pas s'ils en profitent. Je ne sais pas comment ils en profitent à ces niveaux les plus élevés. Mais c'est pas prouvé non plus.
C'est difficile à prouver. Il y a des bruits comme Pasqua à son époque, sur lequel, voilà, bon, bref.
Mais Pasqua, on peut en parler, il n'est plus de ce monde. Et ça remonte à une époque qui est très très lointaine, du coup.
Bon. Voilà, donc policiers et douaniers sont les plus ciblés, qu'ils ont réseau à plus d'informations. Les professionnels de la justice et de la sécurité confirment la montée de la corruption et son rôle central dans le fonctionnement des réseaux criminels. La corruption s'infiltre dans toutes les institutions, ce que tu disais tout à l'heure, hein, et aussi bien dans la police et les douanes, comme on l'a dit, que dans la sécurité, etc., etc. Voilà, donc on va peut-être lire la conclusion pour finir. La montée alarmante du narcotrafic et la corruption en France appellent à des mesures radicales. La légalisation du cannabis et la dépénalisation des drogues sont des solutions cruciales pour contrer cette menace. Comme l'incite le cirque, donc nous-mêmes, il est essentiel de souligner que le goût du sang séché sur le trottoir, évoqué par certains politiciens comme Éric Dupond-Moretti, ne peut être impliqué aux usagers, mais plutôt à la politique de prohibition qu'ils défendent ardemment. Il est légitime de se demander si les mêmes politiciens ne profitent pas eux aussi de cette corruption qui gangrène nos institutions. Pour sauvegarder la démocratie et protéger les citoyens, il est temps de repenser fondamentalement notre approche vis-à-vis des drogues et d'adopter des politiques plus progressistes et éclairées.
Oui. Merci à nos camarades du cirque pour cet article synthétique sur tout ça.
Allez.
Un peu de musique alors. Allez, à tout de suite.
Et voilà, donc ça c'était Weed Eater, Palms and Opium.
Oui, un petit morceau qu'on a passé pas très souvent, mais qui est bien curieux aussi, qui est bien sympa. Voilà, alors, bien, maintenant on va s'intéresser, on va essayer de parcourir, on a un peu le temps, ça va, cet article du Monde daté du 3 mai dernier, que nous n'avions pas traité et qui est assez intéressant quand même, un article du Monde qui s'appelle « Les fuites qui ébranlent les stupes du 9-3 », un article rédigé par Luc Bronner. Alors comment tu disais que la réalité est pire que la fiction?
Ouais, la dépasse, oui, souvent.
Oui, et ben alors là, oui, effectivement. Alors la dépasse, je sais pas. En tout cas, dans cet article, enfin, vers la fin de l'article, on apprend que un des protagonistes a discuté avec, enfin, discuté ou partagé des faits d'affaires sur des drogues avec Nawel Madani, qui est la réalisatrice d'une série sur Netflix dont j'ai entendu parler, comment elle s'appelle, je ne sais pas. Je n'ai pas Netflix, donc je n'ai pas pu la voir. Mais bon, en tout cas, il semblerait qu'effectivement, ce soit, enfin, en tout cas, que la fiction reprenne la réalité en fait pour faire de la fiction, quoi. Donc effectivement. On retrouve tout ça. Alors en fait, c'est quoi dans cet article?
Et la série s'appelle Jusqu'ici tout va bien.
D'accord, Jusqu'ici tout va bien. Ah oui, oui, donc oui, j'avais entendu ça à la radio.
Voilà, donc en fait, c'est quelque chose. Donc c'est un réseau important, on va dire.
Ça a l'air.
Dans le 9-3. Pour une fois, ils ont arrêté quelqu'un à la tête, ce qui n'est pas toujours le cas. En tout cas, à la semi-tête, hein, monsieur Samir Amrouni. Amrouni, qui a 45 ans, qui est un acteur majeur. Et il y a eu beaucoup de choses, le dossier solide, avec des écoutes, des filatures, de la détention. Et puis d'autres choses qui viennent se rajouter, comme on va le voir, on en avait parlé, c'était les Europol, qui avaient fait une grosse saisie quand ils étaient arrivés à pirater, je ne sais plus quelle...
Une plateforme de messagerie?
Oui, tout à fait.
Telegram, peut-être, à l'époque?
C'est pas Telegram, c'est un autre nom, mais voilà. Donc, et du coup, ils avaient chopé pas mal de choses.
Ils avaient fait des saisies et interpellé des acteurs, tu veux dire, enfin des gens impliqués.
Voilà, c'était dans les conversations sur Sky
ECC. Voilà, c'est oui, dans cette affaire là.
La messagerie cryptée, tout à fait. Oui, mais c'est un truc européen qui était tombé.
Oui, oui, mais le nom de la plateforme s'appelait pas comme ça à l'époque. Enfin, peu importe, oui. Aucune importance.
Bref.
En tout cas, voilà, celle-ci là, dans cet article, cette plateforme que les flics ont écouté, ça s'appelle Sky ECC, voilà, une messagerie cryptée appréciée des criminels, apprend-on. Et effectivement, ils ont intercepté des échanges entre des deux individus. Alors là, ils parlent de cet épisode-là qui a eu lieu fin janvier 2021 et qui les a intrigués. Parce que dans les conversations, ils parlent d'un fonctionnaire de la PJ, en fait. Hein.
Ouais, alors évidemment, ils disent pas comme ça. Ils disent « Le bâtard de Bobigny a appelé le tunard de chez moi. » Et il dit que mardi, ils vont encore éclater les portes dans l'affaire de la goutte et Arouf.
Voilà, donc en fait, c'est le fonctionnaire qui a informé ses contacts, enfin, les personnes qu'il connaît qui sont impliquées dans le trafic, et qui les a prévenus d'une descente.
Voilà, le tunard étant le Tunisien. La goutte ou la goutte de sang est le nom de Samir Amrouni.
Amrouni, oui. Bon.
Voilà, le lendemain, deuxième petit échange qui amène des précisions sur la femme du petit, Anouar, Abdel, le gérant du garage, et voilà, vont se faire casser la porte. Donc, évidemment, l'opération a été un peu éventée.
un peu.
un peu seulement, parce qu'il y en a quand même un sur les trois qui se sont fait choper.
Bah, il y en a un qui s'est fait choper à côté de chez lui, il s'est venu de se barrer, ils l'ont attrapé dans la rue, quoi.
Ouais.
Donc, bon... en fait, ce qui se passe là, c'est que les policiers ont compris qu'ils avaient qu'il y avait quelqu'un dans leur service Enfin, ils se demandaient d'où ça venait, mais finalement, ils sont finis par se rendre compte que celui qui balançait les infos, c'était quelqu'un de leur équipe, quoi.
Voilà, c'était pas quelqu'un du petit commissariat de quartier, quoi.
Voilà, non. Et puis, qui avait accès comme ça à des infos par hasard. Non, 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 pas du tout. C'était quelqu'un de. Voilà, qui faisait partie du service. Quelqu'un d'apprécié, visiblement, dans son service. Quelqu'un qui n'a pas de mauvaises notes dans son dossier, quelqu'un de voilà de voilà, réputé donc, bien dans le service qui
le bâtard de Momini ou ce fils de pute comme ils disent, le très grand traître, c'est un pilier des stupes, un fonctionnaire plusieurs fois médaillé et félicité par sa hiérarchie.
Ouais, comme quoi.
Voilà.
Alors bon, l'IGPN qui mène l'enquête quand même depuis un petit moment. Donc on parlait de 2021, donc ça suit son cours, voilà. Et en fait, ils essaient un peu de savoir qui est ce gars, ce qu'il fait, machin, et qu'est-ce qu'il fait avec son argent. Et ils se sont très vite rendus compte que c'est un brigadier chef, donc quelqu'un qui n'a pas un salaire mirobolant. Et que ben voilà, son train de vie n'a absolument rien à voir avec son statut de brigadier chef. Il est quand même bénéficiaire d'un logement social à Paris, mais avec sa femme, il possède aussi 3 appartements mis en location, ainsi que des parts dans une SCI qui est propriétaire d'une maison à La Courneuve, qui elle-même est partagée en 5 appartements et qui sont mis en location. Voilà. Il perçoit aussi des rentrées en liquide qui proviennent d'un restaurant de la même ville, dont il semble en fait être le véritable patron. En plus de ça, l'IGPN s'aperçoit qu'en fait, il a consulté des fichiers judiciaires à de nombreuses reprises, hors de tout cadre légal, hein, voilà, tout simplement, pour vérifier le profil de ses locataires, des membres de sa famille, mais aussi pour rendre service à des contacts. Et là, bon, c'est pas dit, mais rendre des services, je pense, payants. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais bon. L'IGPN a aussi remarqué que des informations sensibles avaient été transmises dans le cadre de l'enquête sur le présent réseau de Amrouni, là. La réalisation d'écoutes, notamment. Aussi divulguer l'info comme quoi un projet de sonorisation de l'hôpital particulier parisien de la compagne d'un trafiquant, donc ça il a balancé les infos. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le résultat de l'interrogatoire d'un prévenu qui avait livré des informations, le recrutement envisagé d'un indicateur. Voilà, donc les policiers en fait se sont retrouvés, enfin sont aperçus qu'il y avait énormément de fuites et ça les a vraiment scotchés, quoi. Et en tout cas, les trafiquants, eux, sont ravis et en tout cas le font savoir sur Sky ECC, hein, sur le réseau, en disant j'espère que le bâtard va changer de service et aller plus haut parce que franchement, il est bon. Hein. Voilà, donc bon, il y en a qui sont satisfaits de ces services visiblement.
Voilà, donc après tous ces gens qui écrivent dans la messagerie ont été identifiés
plus ou moins un certain, enfin une partie mais pas tous, hein.
Voilà, donc il y en a un qui avait écrit tout ce qu'il y a là au-dessus qui dit ah ben non, c'est de la mythomanie, j'ai cherché à me rendre intéressant, hein, de voilà,
mais je sais pas comment j'ai fait pour être
c'est ça que j'ai bien aimé quand même. Il a été mis en examen pour, écoutez bien, recel de violation du secret de l'inscription et association de malfaiteurs. Mais j'aime bien cette recette de violation du
secret de l'instruction. Bah,
du secret de l'instruction. Voilà, donc.
Bon, alors voilà, je te propose qu'on passe un peu.
Ouais. N'a pas été possible, malgré la. Voilà, ils sont pas arrivés à trouver tout le monde.
Tout le monde, voilà. Alors après, je te propose qu'on avance un peu et qu'on parle du second volet du dossier où il y a ces histoires d'argent et de.
Oui, tout à fait.
De vol d'argent sous scellé ou suite à des saisies ou je sais pas, enfin on sait pas bien. Voilà, donc l'équipe, les enquêteurs ont aussi découvert des
26 paquets de billets de banque représentant 180 000 euros. Mais d'après ça, c'est des mensonges puisqu'il y avait 300 000 euros en vérité. Mais c'est une accusation difficile à porter par les prévenus devant les juges parce qu'elles aggravent un peu plus leur cas, déjà passablement chargé.
Bah oui, parce qu'en gros, s'il y a plus d'argent, c'est-à-dire qu'ils ont dealé plus, du coup, ça fait plus de quantité, donc c'est pas cool. Mais en tout cas, visiblement, les 181 000 euros, bah, c'était pas 181 000 euros, ni même 300 000, en fait, c'était plutôt 305 000.
Voilà. Et ça, en fait, ils l'ont appris toujours via cette messagerie cryptée.
Exactement.
Voilà, ces 305 000 euros que les DEC ont pris à la goutte, eux, ils ont déclaré que 180 000. Donc, évidemment, quand on fait la différence, ça fait un peu plus de 120 000 euros qui auraient disparu.
Donc, en gros, il semblerait qu'il y ait des flics qui se soient mis 120 000 balles dans la poche, quoi.
Voilà.
C'est à peu près ça. Enfin, c'est ça. Hein.
Tout à fait. Voilà, en plus, c'est assez flou. Les GPN qui essaient de suivre, les témoins de la perquisition réfutent avoir assisté à la scène, comme l'indiquent pourtant les PV. Le PJ, ou le, comment ils disent, qui était là, il avait deux trucs en même temps, le brigadier chef. Voilà, mais. Ils n'étaient pas là, quoi. Bah. Donc, ils n'étaient pas.
En fait, oui, tout ça, c'est pas clair parce que voilà, les policiers eux-mêmes qui ont été confrontés à ces déclarations et aux scellés, ils réfutent. En fait, ils disent que c'est pas vrai. Notamment le policier qui a été interpellé, mis en examen et qui risque quand même pas mal de prison. Et puis, alors, ce qu'on apprend aussi, c'est les procédures pour détruire les saisies.
Oui.
Alors là, ils font en fait ce qu'ils veulent, quoi. Et s'ils veulent pas les détruire, ils les détruisent pas.
Comment ?
Et s'ils veulent pas les détruire, ils les détruisent pas et puis ils les refourguent, en fait.
Oui, mais ils font semblant de les détruire, quoi.
Ouais.
Ils les emmènent et ils peuvent. Alors, si c'est bien fait, c'est pesé. Donc là, ils enlèvent une partie, mais ils remettent autre chose à la place. Ou sinon, ils en enlèvent et puis ils pèsent même pas, donc ils brûlent tout ça. Donc ils disent, bon, on attend que ça commence à brûler, puis dès que ça a commencé à brûler, on s'en va.
Bah, et puis surtout, quand on va pour les brûler, on brûlera autre chose.
Ouais.
Voilà, donc en fait, ils brûlent ce qu'ils veulent.
Voilà. Voilà, bon. Et c'est tout ça qui a été repris dans un scénario de. Ce qu'on disait tout à l'heure, jusqu'ici tout va bien, qui passait sur.
Sur Netflix.
Voilà. Mais évidemment, toute ressemblance avec des événements réels serait fortuite, comme l'indique Netflix. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire
L'article se termine sur les indiques, les
voilà,
tontons.
Voilà, je te laisse finir.
Oh, ben, oui. Alors, là, en fait, ce qu'on apprend aussi dans cette affaire, c'est que, d'habitude, c'est quand même les tontons, donc les indiques, qui donnent des informations aux policiers pour démanteler des réseaux, des affaires, enfin. Et en fait, là, dans le dossier, c'est l'inverse, c'est le policier qui donnait des informations aux trafiquants, en fait. Voilà.
D'un autre côté, c'est ce qu'on a vu aussi dans plein d'autres, dans plein de films, hein.
Je sais pas à quoi
très,
tu penses.
Très ancien, même, où on voyait très bien la collusion entre
le monde du crime et de la police.
Et un criminel. Ouais. Et d'un autre côté, le criminel qui donnait des trucs à manger aux policiers pour que lui puisse lui signaler les coups de ses concurrents. Comme ça, le policier avait des indications pour attraper et l'autre continuait à poser sa mainmise sur tout le trafic. Bon, ça se passe aussi un peu comme ça dans Bac Nord, qui était aussi pas mal là-dessus, qui lui aussi a été sorti d'histoire vraie, mais là il l'assume et les trois policiers incriminés dans Bac Nord, ils disent après ce qu'ils sont devenus une fois qu'ils ont été limogés.
Ouais. Voilà, bon. Ok. Alors juste pour terminer quand même, juste ce petit élément quand même qui est important, c'est que le brigadier chef mis en examen, il avait plein d'informateurs et il en avait au moins 5 voire 10. Et tout ça, parce qu'en fait les infos, les renseignements, ça se vend. Et que ça rapporte à celui qui les vend, le brigadier chef apparemment qui était mis en examen, il avait 35 à 40 sources inscrites de sa main dans un registre confidentiel de contact. Donc ça fait, ça faisait pas mal de contacts et donc ça peut faire pas mal d'argent aussi. Voilà. Donc en fait, voilà, il y en avait qui, certains qui se remplissaient bien les poches quoi.
C'est
dans
pour
le service.
Ça qu'il avait plusieurs maisons, il avait pu, etc.
Ah oui, ben lui il en a bien profité. Ouais. Ça me fait un peu penser à l'affaire Néré quand même aussi, hein, ouais. Par certains côtés. Mais Néré était à un certain niveau, enfin il était tout en haut lui, il est quand même dans la hiérarchie, alors que là, le brigadier chef, le policier en question du service, c'est un brigadier chef, c'est pas un chef.
Ouais, mais là on parle de 50 kilos, Néré c'était 6 tonnes ou 20 tonnes.
Non, bah, c'était des histoires de drogue Néré aussi.
Pas Néré, pardon, c'était Philippe.
Ah oui, de Loctis.
De Loctis, pardon, voilà.
Ouais, ouais. Je sais pas si je me rappelle plus de son nom, François Thierry, voilà.
Allez, on finit très rapidement sur nos deux petits derniers articles. Les députés tchèques qui décident d'autoriser la vente de HHC, de Kranton et d'autres produits THC Light.
Voilà, alors je trouve que le titre est mal trouvé puisque c'est pas exactement comme ça qu'ils vont faire. Je trouve que quand même la décision, c'est une décision qui a été prise par la majorité des députés, 81 sur 154 ont voté en faveur de cette loi. Qui est en fait une loi de régulation, tout simplement, plus stricte. Voilà, le discours, en fait, c'est de dire que s'ils font une prohibition simple et bête, ça n'empêchera pas les jeunes de pouvoir en trouver et d'en consommer. Donc, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est une régulation effective et efficace qui, effectivement, empêche les jeunes, les plus jeunes, d'avoir accès à ces produits, tout simplement. Bon, je trouve que présenté comme ça, c'est assez intéressant. Nous passons d'interdictions insensées à une réglementation significative. Voilà ce que déclare donc Mirela Siebelova, qui est vice-présidente du parti Stan, Maires et Indépendants. Voilà. Donc c'est comme ça. Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Alors même si effectivement, comme d'habitude, il y a des oppositions, il y en a qui sont pas d'accord. Mais le ministre de la Santé, Vlastimil Valek, lui, met l'accent sur l'approche proactive en déclarant que toute nouvelle substance apparaissant ici sera inscrite sur la liste noire pendant 2 ans et sera ensuite soumise à une réglementation plus stricte que celle applicable à l'alcool. Bon, alors là, au niveau de... Par contre, comment ils s'y prennent ? Voilà, pendant 2 ans, c'est sur une liste, après, il y a une réglementation. Bon, c'est pour moi, c'est un... là que c'est un peu compliqué à comprendre, mais... Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi ? Ils veulent
peut-être qu'en Tchéquie, l'alcool est dans la liste des stupéfiants, mais dans une liste qui est autorisée à la vente.
Oui, oui, bien sûr, oui. Voilà, autre chose qu'ils veulent faire, c'est interdire en fait toutes les substances qui peuvent être consommées, mangées en fait, et qui ressemblent à des produits pour enfants ou à des jouets. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Donc, les Tchèques nous étonnent. Et effectivement, quand même, en reconnaissant, c'est la dernière fois, je vais vous la lire quand même, en reconnaissant que certaines drogues légères, entre guillemets, sont peu nocives pour les adultes, tout en donnant la priorité aux mesures de protection des mineurs, les responsables politiques tchèques ouvrent la voie à une approche éclairée et rationnelle de la régulation des drogues. Les nouvelles règles doivent s'appliquer à partir du début de l'année prochaine. Donc c'est pas tout de suite, hein, ça se mettra en place qu'à partir du début de l'année 2025. Et il n'existe aucune loi similaire ailleurs dans l'Union Européenne. Voilà pour la République Tchèque. Maintenant, pour la Thaïlande...
En moins d'une minute.
Eh bien, la Thaïlande, alors là, qui a pris aussi une décision surprenante, donc d'autoriser, pareil, sous certaines conditions, l'opium et les champignons magiques. Les champignons hallucinogènes, hein, psylo, etc. Qui vont être classés dans la catégorie 5 des stupéfiants. Et qui vont être donc autorisés pour des raisons thérapeutiques, médicales en fait. Voilà, je ne sais pas si tu veux en dire plus, c'était l'information essentielle. Vu qu'il est déjà 22h, je te propose qu'on arrête là.
Je trouve que c'est très très bien de faire ces petites légalisations des champignons thérapeutiques. On a déjà vu qu'il y avait plein de thérapies grâce à ça, et en plus,
il peut y en avoir,
ça marche. Et puis d'ailleurs, si vous allez sur le net, vous pouvez aller vous faire des week-ends, il y a plein de choses qui existent.
D'accord. Alors, c'est surprenant quand même par rapport à la Thaïlande, c'est qu'ils aient légalisé le cannabis récréatif, puis finalement, ils reviennent dessus juste pour... Ils disent oui pour le médical, mais là maintenant c'est les champignons et les... Bon bref, c'est... Voilà, et ben voilà, c'est fini pour Cannabis Circus aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et maintenant, c'est Chasseur de Son. Et en plus, il a un invité et ça va swinguer. Allez, au revoir.